L'interview de Matin Première avec Robin Cornet. Vous recevez ce matin Jane Murphy, la vice-présidente de la Chambre de commerce Canada-Belgique-Luxembourg, avec une question au centre de cette interview. Qu'attendent les Canadiens du CETA ?
Bonjour Jane Murphy. Ben oui, qu'attendent les Canadiens du CETA ? Quels sont les secteurs qui l'attendaient avec le plus d'impatience, cet accord de libre-échange ? Qui est signé, qui ne va pas rentrer totalement en vigueur tout de suite, mais partiellement, le temps que tous les parlements européens l'adoptent. Mm-hmm. Quels sont les secteurs au Canada qui risquent d'en profiter le plus ?
Il y a de nombreux secteurs. Il y a beaucoup d'échanges qui vont continuer. Il y en a qui vont se développer un petit peu plus. Il y a des nouveaux marchés qui seront attaqués. Je dirais que dans les secteurs les plus en demande seront probablement l'aérospatiale, poissons, fruits de mer, l'agriculture, les produits agroalimentaires, les nouvelles technologies, etc. dans ce style-là.
Est-ce que dans un accord commercial, on peut imaginer que tout le monde gagne ou bien il y a forcément des perdants dans un accord de libre-échange ?
Comme dans tout contrat, des droits d'obligation pour les deux parties, effectivement, dans le libre-échange, il n'y a pas que des gagnants. Effectivement, il y a des gens qui ne s'y retrouveront pas autant que d'autres, mais voilà, c'est le principe même des contrats de ce genre. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada, on voit qu'il y a parfois un peu les mêmes inquiétudes que celles qu'on entend chez nous. Je pense par exemple aussi au secteur agricole qui s'inquiète, notamment pour les fromages. On a lu ça beaucoup. Ils attendent une invasion de fromages français. Les petits producteurs sont inquiets. Donc, on a un peu aussi des critiques qui ressemblent à celles qu'on a entendues chez nous, en Wallonie et ailleurs en Europe.
Oui, effectivement, le traité prévoit une exportation vers le Canada de 18 000 tonnes de fromage. Mais 18 000 tonnes de fromage dans l'échelle des choses, c'est pas énorme, mais pour les petits producteurs, ça peut effectivement avoir un impact. Donc, on entend les mêmes plaintes là-bas qu'on entend ici. Ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre aussi les entreprises canadiennes, les exportateurs, surtout dans le domaine de l'agriculture, qui font aussi état d'une inquiétude face aux normes en Europe, parce que on connaît pas bien le marché européen. En agriculture, tout c'est beaucoup plus régionalisé ici en Europe. Il y a aussi des normes dans la chaîne alimentaire. Par exemple, les Canadiens comprennent mal comment on ne met pas les œufs dans les frigos ici, comment on peut laisser les produits laitiers, les fromages traîner sur les comptoirs pendant des heures de temps, etc. Donc, les exportateurs ont parfois certaines inquiétudes par rapport à l'application des normes, alors qu'ici, on a fait grand état de...
Oui, c'est ça, on a dit, attention, les Canadiens, leur bœuf aux hormones, etc. Tout ça va abaisser les normes européennes si on harmonise, parce que c'est aussi ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes autour du CETA, c'est que c'est pas uniquement une ouverture des frontières et des droits de douane, c'est que ça va harmoniser une série de normes environnementales, sociales, et puis de
sanitaires. C'était effectivement un des plus grands.
Mais c'est la même chose finalement en Canada, vous nous dites.
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment dommage qu'on a vraiment réduit le débat du CETA et on a réduit le Canada à cette histoire d'hormones, de bœuf aux hormones, ce qui est totalement faux. Mais on continue, on a encore, il y a 2-3 jours, j'ai entendu des politiciens encore faire cette affirmation, même après la déclaration du gouvernement. Je veux dire, même Paul Magnette et d'autres ont confirmé qu'il n'y a jamais été question de bœuf aux hormones ou de poulet à l'eau de Javel ici en Europe. Mais voilà, c'est ce qu'on retient du CETA.
Et c'est ça continue d'apparaître encore dans la communication. On dit qu'on a empêché l'arrivée
de bœuf. C'est tout à fait fou. C'était déjà dans la première version du traité. Ça était très clair. Maintenant, si on a jugé que c'était nécessaire de clarifier, de mettre en des termes plus clairs, parce que c'est vrai que dans 1600 pages de l'accord, ça peut être un petit peu perdu dans les termes techniques. Donc, on a clarifié ça. Mais il n'y a rien qui a changé. Ça a toujours été le cas. On a toujours dit très clairement qu'il n'y aurait aucune importation de bœuf aux hormones en Europe.
Alors, puisqu'on parle de viande, chez nous, on est assez inquiet des quantités de viande qui pourront arriver sur le marché en provenance du Canada, parce qu'on a aussi forcément des producteurs inquiets chez nous. Au Canada, le secteur de la viande dit que l'accord est inéquitable parce que précisément, il fixe des quotas pour la viande qu'on pourra vendre en Europe.
Oui,
donc
voilà.
On a vraiment deux points de vue différents.
Tout à fait. Mais je pense qu'il y a eu un échange entre les quotas que les Canadiens trouvent assez peu élevés pour la viande porcine, la viande de bœuf. Et en échange, ils ont accepté alors aussi d'accepter des quotas pour les produits laitiers, les fromages, etc. Donc c'était.
Donc le secteur de la viande se plaint, mais finalement l'agriculture, il trouve son compte, quoi. C'est équilibré, c'est ce que vous nous dites au final. Ce qui a suscité, et vous le savez, beaucoup de débats, c'est ces tribunaux d'arbitrage, ce tribunal qui va devoir trancher les litiges quand une entreprise voudra attaquer un État, par exemple pour ses règles, ses normes, ou parce qu'il change de politique publique au détriment d'une entreprise. Est-ce que les aménagements apportés, notamment avec la démarche menée par la région Wallonne sur la désignation des juges qui participeront à cette cour, est-ce que vous trouvez que c'était quelque chose de raisonnable et un acquis plutôt positif ou pas?
C'est-à-dire que la discussion a lieu bien avant. Et c'était déjà inscrit dans le traité, la version de février 2016. On avait déjà prévu ce tribunal, on avait déjà prévu qu'il y aurait une cour d'appel, qu'il y aurait 15 juges indépendants, 5 nommés par l'Europe, 5 nommés par le Canada et 5 nommés par des pays tiers. Et dans cet accord, c'était déjà prévu aussi qu'il y avait tout un chapitre, l'article 8.30, sur le code d'éthique. Que les juges seraient nommés des juges qualifiés, des juges professionnels, des juges indépendants, soumis aux règles de l'Association internationale du barreau et sous supervision de la Cour européenne, la Cour internationale de justice, pardon. Donc, il y avait vraiment une protection, un mécanisme de protection déjà en place. Dans l'article, on a précisé qu'un code de conduite plus détaillé serait déterminé comme un accord par les parties. On a fait que répéter maintenant que certains éléments qui seraient compris dans ce code de conduite. Donc, on a clarifié, mais encore, on n'a rien changé. C'était déjà dans l'accord.
Non, en fait, ce que vous nous dites, c'est que globalement, les démarches entreprises par la Wallonie qui ont un peu retardé la signature du CETA n'ont finalement pas abouti à des changements majeurs. C'est ce que vous pensez, vous?
Il n'y a pas de changement majeur, mais il n'y a pas de changement non plus. Mais par contre, je comprends ce besoin de clarifier certaines choses. Parce que si on en parle, s'il y a encore un débat, et si on parle du bœuf aux hormones et tout le reste, si on parle encore du tribunal, c'est que ce n'était pas clair à quelque part. Au niveau de la communication, et c'est sûr qu'il y a eu probablement des manquements des deux côtés. Maintenant, si on a jugé bon de clarifier, c'est vraiment au bénéfice de tout le monde. Parce que
donc, c'est plutôt des clarifications qui ont été obtenues,
tout à fait.
Vous nous dites. cela dit, sur la méthode, on sent que vous pensez qu'on a peut-être voulu passer un peu en force, un peu trop vite. Peut-être que sur la méthode, ce dossier aurait pu être géré différemment?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi cette tendance à dire que ça a été négocié dans vraiment sans transparence et en secret. Je sais que la version officielle de la première version a été publiée déjà en 2014. Il y a eu une traduction en 23 langues qui est disponible sur les sites de différents organismes, de toute façon, mais au niveau du gouvernement du Canada, au niveau de l'Union européenne. C'est un texte très difficile à lire, c'est très technique, et 1600 pages, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ce genre de lecture. Mais les textes étaient disponibles, donc ce que nous, à la Chambre de commerce, nous sommes un peu déçus du fait que on arrive à la dernière minute pour faire toutes ces demandes. Maintenant, moi, je me retrouve plus dans les déclarations des politiciens, parce que d'un côté, on dit oui, la région Wallonne a fait plein de demandes et ça fait plus d'un an, etc. Hier, Didier Reynders expliquait que il a envoyé deux lettres, qu'on n'a jamais répondu à ces deux lettres-là. Donc, les deux camps disent des choses complètement différentes. Le résultat final, c'est que ça a été signé avec 3 jours de retard. C'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, mais maintenant, on a vu l'attitude de Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui a semblé dire, voilà, c'est passé, c'est fait, on n'est pas fâché, on reste amis, on signe maintenant.
Et quand vous dites, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions, vous pensez à quoi?
Je pense qu'au niveau diplomatique, ce genre de situation, les gens ont une longue mémoire. Donc, si jamais il y a des postes à attribuer dans le futur ou des faveurs à obtenir, je pense que les gens vont s'en souvenir. Mais au-delà de ça, il y a aussi les entreprises. Je pense que les entreprises du côté du Canada, pour le moment, restent un petit peu avec un goût amer de toute cette situation, parce qu'on a quand même remis en cause la façon de faire des affaires avec les Canadiens. On est allé jusqu'à remettre en cause la protection des droits de l'homme. pour un pays qui devance la Belgique en matière de droits de l'homme, c'était un petit peu offusquant pour les entreprises canadiennes. Donc, je crois qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi on avait si peur des Canadiens quand on signe avec d'autres pays comme le Vietnam où on a fait l'exportation.
Est-ce que ce n'est pas parce que, finalement, derrière le CETA, il y a l'ombre du TTIP avec les États-Unis, on se dit ça ouvre la porte et si on signe avec le Canada, on va probablement nous embarquer sur un accord commercial semblable avec les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas ça la raison?
Oui, ça jouait un énorme rôle parce que quand on se promène en ville, on voit sur les tunnels stop CETA, stop TTIP. On a fait un amalgame des deux traités et c'est complètement différent. Il y a plein de choses que le Canada, sur lesquelles le Canada a concédé en disant « OK, il n'y aura pas de bœuf aux hormones », alors que les Américains, eux, continuent en disant « il n'y aura pas de traité si on ne peut pas exporter notre bœuf aux hormones ». Il y a plein d'autres choses. Les marchés publics sont ouverts au Canada maintenant aux entreprises européennes et apparemment, les Américains ne veulent pas laisser passer, ne veulent pas faire cette ouverture. Il y a plein de différences, mais au-delà de ça, il y a aussi les différences culturelles. Les Canadiens ne sont pas des Américains et ça, c'est quelque chose que j'ai vu depuis nombreuses années. Depuis que je suis en Belgique, c'est que si on dit qu'on est Canadien, ben on pense qu'on est Américain. Mais la culture est complètement différente, surtout la culture des tribunaux. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on poursuit assez facilement les entreprises devant les tribunaux. Puis au Canada, ce n'est pas le cas. J'ai pratiqué le droit au Canada, je suis avocate ici, et c'est vraiment deux systèmes très semblables.
Une crainte qui est souvent revenue aussi, c'est que peut-être des filiales canadiennes d'entreprises américaines pourraient se servir de cet accord à la fois pour exporter vers l'Europe, mais aussi potentiellement pour saisir ce tribunal d'arbitrage et régler des litiges avec des États européens. Est-ce que ça, c'est possible?
Tout est toujours possible, mais je crois que le risque est vraiment très minime parce qu'on a mis dans le traité des règles très strictes pour déterminer quels sont les droits et les parties qui ont le droit de recourir à ce genre de tribunal. D'abord, il faut être investisseur. Donc, ça exclut les exportateurs. Ce sont les investisseurs. Et pour être considéré comme un investisseur canadien ayant droit au tribunal ici, ou en tout cas le tribunal qui sera mis en place, il faut avoir une activité commerciale substantielle. Donc, on ne peut pas juste aller établir une société, une boîte aux lettres ou avoir une petite activité ou être là depuis peu de temps pour pouvoir être considéré comme un investisseur canadien et avoir droit à ce tribunal.
Donc, mais bon, il y a quand même beaucoup de grandes entreprises américaines qui ont des filiales au Canada.
Oui, mais alors ce sera un investisseur canadien et il sera soumis aux mêmes règles que tous les autres investisseurs.
Comment est-ce que vous expliquez que l'opinion publique, une partie du monde politique, soit devenue aussi méfiante par rapport aux accords de libre-échange? Est-ce que c'est pas qu'on n'y voit plus le bénéfice de ces... Ça fait longtemps qu'on libéralise le commerce. Est-ce que ce n'est pas qu'on ne voit plus le bénéfice directement pour notre économie, pour les citoyens?
Oui, je crois que c'est ça. Tout va très, très vite et tout... Voilà, c'est soit on est contre la mondialisation ou on est pour, et c'est difficile de changer de camp une fois qu'on est rentré dans une voie. Et ça fait vraiment peur parce que on voit que la Chine.
Mais objectivement, vous pensez qu'on en profite, que tout le monde en profite d'une façon ou d'une autre?
Oui, mais
les gens ont un peu le sentiment que.
Oui. Mais ça revient à votre première question, et c'est pas toujours 100% gagnant pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'il y a certaines personnes ou certains secteurs qui seront pas aussi gagnants que d'autres. Et ça fait peur. Et l'inconnu fait peur. Donc je crois qu'on stigmatise un petit peu les multinationales, mais la Belgique et l'Europe font la promotion pour attirer les investisseurs étrangers. Mais les multinationales qui viennent. Quand elle ferme comme Caterpillar, oui, ça cause beaucoup de soucis, ça cause beaucoup de...
Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un point où finalement ça devient plus compliqué d'établir ce type d'accord de libre-échange et où l'opinion publique n'est plus prête à les accepter? Est-ce qu'on est à un tournant là?
Oui, on est à un tournant à ce niveau-là, mais on est surtout à un tournant à ce qui se passe dans le modèle européen. Et ce qui était très frappant quand je parlais aux entreprises ici en Europe, c'est il y avait une méfiance du Canada, mais il y avait surtout une méfiance de l'Europe. Donc, par rapport à la nomination des juges, par exemple, pour ce tribunal, on faisait référence à certains épisodes de commissaires européens, à l'impartialité de certaines personnes en Europe, et que c'est le système européen qui était plutôt mis en cause. Donc, c'est une méfiance générale, je pense, plutôt du modèle européen.
Ah, merci Jane Murphy d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions de Robin Cornet. 7h59 sur la première. Dans quelques instants, votre journal.